Alors bonjour encore à tous. L'Église, nous l'avons dit en commençant cette session, n'est pas l'Église du non au bonheur et à la joie des époux, mais elle est l'Église du oui au plan de Dieu créateur qui nous appelle tous à la vie éternelle, dans la vérité, l'amour et le bonheur éternel. Je voudrais commencer d'abord, pour prendre la suite de Monseigneur Mélina, à avoir comme grand modèle Saint Jean-Paul II. C'est notre grand modèle. Saint Jean-Paul II n'a pas eu peur de s'opposer avec énergie aux cultures de la mort. Parce que s'il faut construire la culture de la vie, nous allons le voir, il faut d'abord combattre les cultures de la mort. Voilà, donc nous sommes dans le combat. Nous voyons les fruits amers des cultures de la mort sous nos yeux. Notre gouvernement français a inscrit dans la Constitution de la Ve République le droit à l'avortement. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce qu'en faisant cela, la Ve République signe son arrêt de mort. Voilà, elle n'a aucun avenir, car si on met dans sa Constitution le droit à l'avortement, c'est la... Il n'y a plus de loi possible. Comme Mère Teresa l'avait dit, si vous avez le droit de tuer un enfant innocent dans le sein de sa maman, qui pourra vous empêcher de me tuer ? Donc, c'est la défaite du droit. C'est la défaite de l'état de droit. Comment est-ce possible ? D'ailleurs, j'avais écrit à notre député qui a voté... Bon, je pense qu'il n'a pas des bons conseillers, mais j'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous allez voter ? Comme s'il y avait un droit à tuer un enfant dans le sein de sa maman. C'est une aberration. C'est vraiment les cultures de la mort. Et notre prochain gouvernement, puisque on est en plein dans le marasme, on ne sait pas où on va aller, mais de toute manière, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui vont venir au gouvernement vont se précipiter pour voter la loi qui libéralise le suicide assisté et l'euthanasie. Nous devons donc être témoins, d'où m'en éviter, mais nous le sommes dans des cultures de la mort. La vertu que nous devons exercer, c'est évident, c'est le courage. Saint Jean-Paul II, dans son dernier livre « Levez-vous, allons », a cité le grand cardinal polonais Stefan Wyszyński. Citons ces deux phrases qui sont tout un programme pour ce troisième millénaire et qui s'adressent avant tout à ses frères évêques. Pour un évêque, le manque de force est le début de la défaite, la plus grande faiblesse de l'apôtre est la peur. Et Benoît XVI vous a dit, Monseigneur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pour le pape Saint Jean-Paul II, avec Dieu dans son cœur, avec ses prêtres et ses fidèles autour de lui, un évêque doit avoir le courage d'affronter les défis que notre époque comporte. Et Jean-Paul II nous a donné l'exemple. Pas même les balles tirées contre lui le 13 mai 81 ne l'ont arrêté ni intimidé. Il a eu un modèle vers lequel se tourner. Pendant ses années de séminaire et ses premières années de sacerdoce, son archevêque, le cardinal Sapieha, je ne sais pas prononcer à la polonaise, que le pape Jean-Paul II cite plus d'une fois et qu'il a appelé le prince intrépide. Prince parce qu'il venait d'une famille noble qui portait ce titre. Intrépide, parce qu'il manifesta de grandes marques de courage d'abord vis-à-vis du nazisme, puis du communisme. Il a été un évêque qui n'a jamais plié. On comprend mieux pourquoi, dans sa première homélie place Saint-Pierre, alors qu'il inaugurait son pontificat, Saint Jean-Paul II s'exclama « N'ayez pas peur, ouvrez les portes au Christ. Et dans la première homélie qui ouvrait le pontificat de Benoît XVI, Benoît XVI a repris en conclusion ces paroles de Jean-Paul II. Dans cette exclamation était indiquée la ligne directrice inspiratrice de tout son pontificat et le zèle que nous devons avoir pour combattre les cultures de la mort et construire la culture de la vie. Au cours de son long pontificat, Saint Jean-Paul II a proposé avec courage et avec confiance au monde d'aujourd'hui de reprendre la voie de la vérité et des valeurs morales et spirituelles. La seule voie qui puisse assurer à l'humanité la justice, la solidarité et la paix. Je voudrais prendre maintenant quelques moments importants de Jean-Paul II qui nous a donné un programme pour reconstruire. Et pas simplement pour ces années à venir, mais pour tout le troisième millénaire. Son quatrième voyage apostolique en Alsace en 1988. On n'a pas beaucoup analysé cela, ou du moins on n'a pas voulu l'analyser. Parce que là, Saint Jean-Paul II nous a donné les choses essentielles. C'était en 1988, en octobre 1988. Ce quatrième voyage apostolique était un voyage pastoral européen. Il venait pas simplement pour la France, il venait pour l'Europe. Il avait été invité par le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Et au cours de ce voyage, il a rappelé que l'identité commune des Européens, si divers par leur langue et leur culture, était le christianisme. Pour ce saint pape polonais, l'Europe serait la libre collaboration, association des peuples dans la diversité. Jean-Paul II voulait l'Europe des nations. On a construit aujourd'hui une Union européenne qui veut mettre tout le monde avec la même idéologie maçonnique. Voilà. Il a rappelé aux jeunes qu'il ne fallait pas imposer sa langue et sa culture aux autres, mais apprendre celle des autres. Il a énergiquement rappelé au Parlement européen que l'on ne devait pas et que l'on ne pouvait pas exclure Dieu de la vie publique européenne. Si l'on excluait Dieu, on exclurait aussi l'ultime instance de la morale et de la justice. Il voulait faire comprendre que si l'on ne respectait pas les droits de Dieu, on ne respecterait pas les droits des hommes. Les événements qui se sont déroulés dans les Balkans quelques années plus tard et qui continuent à se dérouler en Europe ont donné raison à Saint Jean-Paul II, qui a lancé ce grave avertissement aux hommes politiques européens. Si le christianisme devait être marginalisé, c'est tout l'héritage européen passé qui serait nié et un avenir digne de l'homme européen compromis, y compris celui de l'incroyant. Voici le programme que Saint Jean-Paul II donnait pour la réévangélisation de l'Europe après ce voyage. Il a donné lors de l'audience générale à Rome qui a suivi son quatrième voyage apostolique en Alsace. Et il a tracé le programme de la nouvelle évangélisation de l'Europe en trois parties. Reconstruire l'unité dans la vérité, en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Deuxièmement, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Et troisièmement, reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Ce programme a été, c'est évident, mûrement réfléchi par Saint Jean-Paul II. Et comme vous nous l'avez dit hier, Monseigneur, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI nous montrent ce qu'est le ministère pétrinien dans une église synodale. Parce qu'ils ne prenaient jamais de décision tout seuls. Toujours, ils écoutaient leurs experts et ils étaient prêts à changer ce qu'ils avaient pris. Mais voilà, toujours. Donc, on va essayer de voir, voilà, concrètement, aujourd'hui, en 2024, donc à peu près 40 ans après ce que Jean-Paul II avait dit en 1988, comment nous allons mettre en application ce programme. Si nous voulons construire la civilisation de la vie dans le contexte de civilisation de la mort qui est le nôtre aujourd'hui, et qui ne fait que s'accroître, car il est encore pire, cette civilisation de la mort qui est du temps de Jean-Paul II en 1988, nous devons accueillir ce programme toujours d'actualité dans la confiance, le courage et l'enthousiasme. Alors d'abord, reconstruire l'unité dans la vérité en écoutant l'Évangile et en le vivant avec cohérence. Tout est bien précis. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter. Il faut d'abord l'écouter, l'Évangile, mais il faut le vivre avec cohérence. Saint Jean-Paul II voulait que l'Europe retrouve l'unité qui a été la sienne, l'unité spirituelle grâce à l'Évangile. Cette unité est un fait historique que nul ne peut nier. Et Jean-Paul II l'a redit sans cesse tout au long de son pontificat. Toutes les nations européennes étaient chrétiennes à la fin du premier millénaire. La dernière grande nation à recevoir le baptême a été la Russie. Elle a été baptisée en 988. Que constatons-nous aujourd'hui? La France et l'Europe ont comme honte de leurs racines chrétiennes. C'est la France qui a entraîné les autres nations européennes dans le rejet, dans la constitution de l'Union européenne, de la mention de ses racines chrétiennes. Voici un commentaire du journal La Croix. Je vous rassure, nous ne sommes plus abonnés depuis au moins 15 ans. Monseigneur Blondel m'avait dit, mais pourquoi vous... Ben, j'ai dit non... On a maintenant d'autres sources plus importantes, parce que La Croix et Libération, c'est pareil. Voilà. Donc le 18 avril 2024, c'est pas vieux, voilà ce que dit La Croix. L'Europe a-t-elle renoncé à ses racines chrétiennes? La référence aux racines chrétiennes de l'Europe est un sujet de débat depuis le refus de Jacques Chirac de les voir mentionnés dans le projet de constitution européenne en 2004. Et bien sûr, Giscard d'Estaing était encore plus opposé. Atteinte à la laïcité ou arme utilisée par les populistes contre l'islam pour certains. Défense d'un héritage civilisationnel pour d'autres. Les racines chrétiennes de l'Europe, le débat revient régulièrement. Dernier épisode en date, un document publié en décembre 2021 par la Commission européenne prescrivait entre autres le mot Noël au nom d'une communication inclusive. Alors je pense qu'en Italie quand même vous êtes un peu plus intelligent qu'en France, mais vous rappelez pendant tout le temps de Noël, bonne fête, joyeuse fête, mais Noël a disparu. L'actuelle tête de liste, le républicain François-Xavier Bellamy, dénonce alors à la tribune du Parlement européen la haine des racines qui ont fait l'Europe. Marine Le Pen fustige quant à elle ses technocrates qui montrent leur vrai visage, celui de l'ennemi de nos identités, de nos racines, de nos traditions. Cette citation ne vient pas d'un journal traditionnaliste, mais de La Croix. Il est donc bien évident que la première partie du programme de la reconstruction de l'Europe tracée par Saint Jean-Paul II, 44 ans plus tard, donc 2024, est pour le moment impossible dans l'Union européenne, même dans l'Église. Impossible n'est pas chrétien. L'archange Saint Gabriel a dit à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. Donc, soyons les témoins courageux qui n'ont pas peur d'aller à contre-courant pour dire et redire à nos évêques européens, aux hommes politiques européens, à toutes les personnes en responsabilité en Europe et à tous les Européens, que l'Europe n'a pu être un continent uni à la fin du premier millénaire que pour un seul fait, toutes les nations qui la composaient étaient devenues chrétiennes. Le christianisme est le ciment de l'unité de l'Europe. Le christianisme doit redevenir ce ciment unitaire. Cela ne signifie pas que nous n'accueillerons pas les hommes et femmes d'autres religions. Mais ces personnes doivent savoir que les racines de l'Europe sont chrétiennes, et donc si elles viennent demander de travailler chez nous, de vivre chez nous, elles doivent respecter nos racines. Mais n'oublions pas ce que demandait Saint Jean-Paul II aux Européens chrétiens, annoncer l'intégralité de l'Évangile et le vivre avec cohérence. Lorsque des musulmans vivent en France, mais même maintenant en Italie, peuvent-ils dire « Oui, cette religion chrétienne a été la religion fondée par Dieu ». Quand on voit nos églises vidées pour les messes dominicales, et quand on voit qu'on ne vit pas le christianisme avec cohérence. Deuxième partie du programme donné par Jean-Paul II, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Et c'est là que Benoît XVI a bien compris, c'est le combat. Saint Jean-Paul II voulait que tous les Européens reconnaissent que l'abandon des valeurs chrétiennes n'a pas été un progrès, mais une régression, un déclin, le déclin de l'Europe qui a été déchiré par deux horribles guerres et qui n'est pas capable de régler aujourd'hui les conflits sur son continent. Le déclin de l'Europe ne cesse de croître. Des membres de la hiérarchie de notre Église non seulement ne s'opposent pas aux idéologies LGBT inspirées par Lucifer, pour détruire l'homme et la femme à l'image et à la ressemblance de Dieu créateur, un en trois personnes, mais ils en viennent à les promouvoir. Comment est-ce possible? Nous vivons le temps de la grande apostasie à l'intérieur même de l'Église. Soyons des témoins courageux, déterminés et zélés, pour réagir avec courage et décision contre les courants modernistes progressistes et le courant LGBT dans l'Église elle-même. Comment mettre en application la deuxième partie du programme tracé par Saint Jean-Paul II si l'Église elle-même n'a pas surmonté sa très grande crise actuelle? Notre fondateur a compris avec M. Gérard Soulages, fondateur de Fidélité et Ouverture, que l'urgence était de réagir avec courage et décision contre la crise de l'Église et de servir l'Église avec tous ceux qui le veulent pour qu'elle retrouve son unité dans la vérité et la charité. Monseigneur Livio, nous vous remercions de nous avoir fait l'honneur de participer à notre session. Vous qui avez été professeur titulaire de la chaire de théologie morale à l'Institut Pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille de 1991 en 2017. Vous avez été nommé président de cet institut par le pape Benoît XVI en 2006. Donc, je ne reviens pas là-dessus parce que ça ne sert à rien. Je voudrais citer ce texte très éclairant, très bien documenté, du site Belgicato. Je pense que c'est un site assez traditionnaliste. Et je ne le citerai pas tout parce que vous pourrez le retrouver. Du 16 mars 2021, son titre révèle ce que l'on peut appeler, dit ce site, la révolution qui frappe l'Institut Jean-Paul II, dont était président Monseigneur Mélina. La nomination de Monseigneur Bourdain est où ? Quand l'Institut Jean-Paul II tourne définitivement le dos à Humanévité. Bon, cet article commence par citer Sandro Magister. Sandro Magister a des choses qui sont intéressantes. On n'est pas forcément d'accord avec tout, mais voilà, ce sont des renseignements quand même qui ont leur valeur. Voilà. Le tremblement de terre qui a chamboulé l'Institut en 2018 est l'œuvre de son grand chancelier, l'archevêque Vincenzo Paglia, sur mandat du pape François, visiblement aux grandes dames du pape émérite Benoît XVI. Mais le président Sequeri était resté en place, un théologien d'une valeur reconnue et non suspect de conservatisme, pour porter courageusement la flamme d'une interprétation de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, fidèle à son sens originel. Mais aujourd'hui, ce dernier garde-fou vient de tomber. Bourdain, c'est un Français, hein, qui était le président de l'Institut catholique de Paris, ou de la faculté de... Bourdain se bat depuis des années pour le dépassement de cette encyclique et une nouvelle approche de la théologie de la famille qui, pour lui, ne s'arrête pas au triangle petit bourgeois d'un père, une mère et des enfants, mais qui est le lieu où chaque individu grandit comme une personne en relation, et donc mépriser les familles différentes, ce serait aussi mépriser ce travail de socialisation. Même nos évêques de France n'ont plus le courage de parler de la famille selon le plan de Dieu. Mais on parle toujours les familles. Voilà, il faut être inclusif. Je suis désolé, dans mon texte, il n'y a pas d'inclusive dans l'orthographe. La parole au professeur Colin. Mais c'est alors qu'on appelle l'Institut nouveau, Institut Amaurice Laetitia. La nomination annoncée de Mgr Philippe Bourdain, actuel recteur de l'Institut catholique de Paris, au poste de président de l'Institut Jean-Paul II, est la dernière étape de la refondation opérée par Mgr Paglia et par le pape François de cette institution explicitement voulue par Saint Jean-Paul II et fondée par Carlo Caffara. Et Mgr, vous nous avez dit des choses très importantes hier soir à ce sujet. Cela confirme que cette refondation est bien une révolution. Aujourd'hui, 14 juillet, on sait ce que ça veut dire, révolution. La riche réflexion du pape polonais sur le corps sexué, le mariage et la famille peuvent être perçues comme une réponse au fiasco de la réception de l'encyclique de Saint Paul VI, Humanae Vitae. Non que ce texte porte sur l'intégralité de ces sujets, loin s'en faut, mais il peut être considéré comme la pierre de touche de toute la doctrine de l'Église sur la sexualité et le mariage. La mentalité contraceptive à laquelle s'oppose l'encyclique est en effet objectivement la condition de possibilité de la légitimation sociale de l'avortement, des technologies, de la procréation et de toutes les revendications LGBTQ. Or, la refondation de l'Institut Jean-Paul II entreprise depuis quelques années par Mgr Palia, passant par le limogeage d'une bonne partie de ses professeurs et la nomination de théologiens comme Maurizio Chiodi et Gilfredo Marengo, ne prend clairement plus Humanivité comme pierre de touche. Ce texte est désormais vu comme trop abstrait et théorique. Le statut qui lui est accordé en fait un idéal, quand bien même on le qualifierait de prophétique, autant dire un bibelot que l'on pose sur la cheminée pour la décoration et auquel on ne touche plus. La nomination de Philippe Bourdain confirme ce changement de paradigme qu'on en juge sur pièce. Voici ce qu'il disait, donc Mgr Bourdain, dans un texte écrit à l'occasion des synodes de la famille de 2014 à 2015. L'encyclique Humanae Vitae enseigne que les méthodes naturelles de maîtrise de la fécondité sont seules licites. Il faut toutefois reconnaître que la distance entre la pratique des fidèles et l'enseignement magistériel s'est creusée. Est-ce pure surdité aux appels de l'esprit ? Ou le fruit d'un travail de discernement et de responsabilité chez les couples chrétiens, soumis à la pression de nouveaux modes de vie. Les sciences humaines et l'expérience des couples nous enseignent que les rapports entre désir et plaisir sont complexes, éminemment personnels, et donc variables selon les couples, et qu'ils évoluent dans le temps au sein du couple. Devant le devoir moral impérieux de lutter contre les tentations de l'avortement, du divorce et du manque de générosité face à la procréation, il serait raisonnable de renvoyer le discernement sur les méthodes de régulation des naissances à la sagesse des couples, en mettant l'accent sur l'éducation morale et spirituelle, permettant de lutter plus efficacement contre les tentations dans un environnement souvent hostile à l'anthropologie chrétienne. Dans cette perspective, l'Église pourrait admettre une pluralité de chemins pour répondre à l'appel général à maintenir l'ouverture de la sexualité à la transcendance et au don de la vie. La voie des méthodes naturelles impliquant la continence et la chasteté pourrait être recommandée comme un conseil évangélique, pratiqué par des couples chrétiens ou non, requérant la maîtrise de soi dans l'abstinence périodique. Évidemment, c'est simplement pour une petite élite. L'autre voie, dont la licéité morale pourrait être admise et le choix confié à la sagesse des époux, consisterait à user des méthodes contraceptives non abortives. On pourrait demander à ce nouveau président, est-ce qu'il connaît des méthodes contraceptives qui ne sont pas abortives ? S'il décide d'introduire cette médecine-là, médecine en plus, hein, Madame Écochard l'a bien dit hier, hein, la pilule n'est pas un médicament. Voilà, donc, s'il décide d'introduire cette médecine-là dans l'intimité de leur vie sexuelle, les époux seraient confiés à redoubler d'amour mutuel. C'est faux, faux, faux. Celui-ci est seul à pouvoir humaniser l'usage de la technique au service d'une écologie humaine de l'engendrement. Donc on savait ce qu'il avait dit en 2014, et on le met président, et on le met président. Et vous savez ce que l'ancien président a dit, vous nous avez fait hier une intervention absolument remarquable, qui répond à toutes ces aberrations de Mgr Bourdain. Dans la causerie que j'ai donnée pour ouvrir la session, j'ai cité un extrait du discours du cardinal Ladaria pour l'ouverture du congrès de la Fondation Jérôme le Jeune sur Humanae Vitae le 19 mai 2023. Alors là, je quitte mon papier, donc nous étions présents. Et bon, quand on ouvre le congrès, on met toujours un peu de temps pour que tout le monde arrive et tout. Donc je voyais cet homme, col romain, souriant. Il ne savait pas exactement qui il était, parce que bon, on n'avait pas encore présenté. Mais il était souriant, je l'avais jamais, si j'avais dû le voir une fois ou l'autre, mais pas beaucoup quand même. Je ne l'ai pas eu comme professeur, parce qu'il a enseigné la grégorienne l'année d'après où j'étais parti. C'était un jésuite. Hein. Et puis il a donné cette intervention qui nous a frappés. Bon, extraordinaire. Et pour dire, on ne touche pas à humanité. Mais cet homme, il était l'actuel préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et en tant que préfet pour la Doctrine de la Foi, il n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit sur humanité. Parce qu'il n'aurait pas eu la signature. Et là, voilà que la Fondation Jérôme Lejeune, qui fonde notre, comment il s'appelle, l'association qu'ils ont fondée là, pour faire cette session. Voilà, chaire internationale de théologie morale, ou de morale, de bioéthique, a eu la riche idée de l'inviter. Donc, il y a eu la petite frontière du Vatican, suffit de faire deux pas, et on se trouve chez les Augustiniens. Et là, il était invité en tant que théologien. Donc, il a pu dire tout ce qu'il voulait. Monseigneur Palia l'a contredit le jour même. Frère Clément-Marie vous l'a dit hier. Le jour même. Dans Vatican News. Voilà. Donc, ça montre à quel point le combat est rude. Le combat est rude. Donc, les propos du cardinal Adaria, que vous retrouverez dans les textes écrits, je n'ai pas tout mis, mais vous trouverez tout son discours, hein. Et de même, vous ajouterez ce que nous a dit Monseigneur hier. Eh bien, ce discours, c'est sur ce quoi on doit se fonder. Monseigneur Mélina, nous vous disons un très grand merci pour tout ce que vous nous avez dit, qui est totalement en accord avec le cardinal Adaria, et nous vous soutenons 100%. Une fois l'unité de l'Église dans la vérité et la charité retrouvée, combien de temps faudra-t-il? Mais avec le triomphe du cœur immaculé de Marie, ça peut venir plus vite que ce qu'on pense. Il sera nécessaire de réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Et alors, nous nous appuierons sur le double grand appel de Saint Jean-Paul II à la France, 1er juin 1980. Nous y étions, au Bourget. C'est là qu'on voit le courage de Jean-Paul II. Parce que c'est pas facile de venir faire une petite leçon à la France. Surtout quand on est polonais. Derrière le rideau de fer. Ils n'ont pas compris la modernité, vous comprenez tout cela, donc c'était pas facile. Et l'homélie de Jean-Paul II était toute une préparation pour arriver en conclusion à cette double question qu'il va nous poser. Et il va prendre des précautions oratoires pour dire voilà, je m'excuse, hein, de vous poser cette question, mais je dois le faire en tant que pape. En tant que pape. Alors qu'est-ce qu'il nous pose comme double question? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup repris, sauf bon, quelques petits îlots et quelques petits prêtres rigides. Cette double question, double grand appel de Jean-Paul II à la France. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Et n'oublions pas la seconde, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'Église qui est en France? Non, pardon, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Nous devons souligner que ce double appel n'a pas été adressé à l'Église qui est en France, mais à la France, à la nation, née avec le baptême de Clovis et de ses soldats. N'ayons pas peur de rappeler à temps et à contre-temps ce double appel. La France est la fille aînée de l'Église. La France, en tant que fille aînée, doit être éducatrice des peuples pour le bien de l'homme, parce que par son baptême, elle a scellé une alliance avec la sagesse éternelle. Notre président, M. Macron, s'est félicité parce que la France est la première nation à avoir inscrit dans sa constitution le droit à l'avortement. Cet acte est en totale contradiction avec la mission de la France, fille aînée de l'Église. Le droit à l'avortement est inscrit dans la constitution de la Ve République française, mais non pas dans l'être profond de la France. Il faut distinguer la Ve République et la France. La France, fille aînée de l'Église, qui ne peut pas contredire la loi de Dieu, tu ne tueras pas. Donc aujourd'hui, on est le 14 juillet. La France n'est pas née le 14 juillet 1789. La France est née le jour du baptême de Clovis et de ses soldats francs. Les francs-maçons ne veulent pas en entendre parler. Parce que j'avais fait une homélie un peu musclée pour la nuit de Noël. Et j'ai eu une réponse d'un franc-maçon, je ne sais pas lequel, hein, je ne sais pas quel degré il était. Il m'a dit, mais mon père, c'est pas le moment de parler de politique, etc. Et puis la France, c'est pas le baptême de Clovis, etc. Il y a aussi toutes les valeurs de... Bah, les valeurs de la franc-maçonnerie, elles n'ont que 307 ans, hein, je crois, puisqu'en 2017, on fêtait le troisième centenaire de la naissance de la franc-maçonnerie. Donc 307 ans, qu'est-ce que c'est 307 ans? Nous avons 2000 ans. Voilà. Donc la France est née avec le baptême de Clovis. Et là-dessus, on ne peut pas transiger. Voilà. Le deuxième grand appel sur lequel nous devons nous appuyer pour lutter et contre la déchristianisation, c'est le grand appel de Saint Jean-Paul II à l'Europe depuis Saint Jacques de Compostelle. Et là aussi, il y a des phrases de Jean-Paul II qui reviennent sans cesse, etc. Celui-là, qui en parle? Donc, deux années après le double appel à la France de Saint Jacques de Compostelle, Jean-Paul II lance ce grand appel à l'Europe le 9 novembre 1982. Moi, Jean-Paul II, de la nation polonaise, qui s'est toujours considérée européenne, moi, successeur de Pierre sur le siège de Rome, donc je mets des points de suspension, je n'ai pas tout cité, moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, de Saint-Jacques, je te lance, vieille Europe, un cri plein d'amour. Rencontre-toi de nouveau, sois toi-même, découvre tes origines, ravive tes racines, revis ces valeurs authentiques qui firent glorieuse ton histoire et bienfaisante ta présence dans les autres continents. Reconstruis ton unité spirituelle. Tu peux être encore un phare de civilisation et un stimulant de progrès pour le monde. Les autres continents te regardent et attendent aussi de toi la même réponse que Jacques donna au Christ, « Je le puis ». N'ayons pas peur, rappelons à temps et à contre-temps aux responsables des nations européennes l'appel de Saint Jean-Paul II, qui est toujours et plus que jamais actuel. Et puis, la troisième partie, reconstruire les consciences à la lumière de l'Évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Donc, je reprends les trois parties de Jean-Paul II, le programme pour la reconstruction de l'Europe, reconstruire l'unité dans la vérité, en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation et reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Qu'est-ce qui change par rapport au premier point ? C'est reconstruire les consciences. Monseigneur, vous êtes professeur de morale et vous savez combien c'est important. Concrètement, comment être les instruments de la construction de la civilisation, de la vie et de l'amour ? Le courage des évêques et du magistère, mais aussi de tous les baptisés, pour annoncer sans peur l'intégralité de la morale évangélique, dont les encycliques Humanae Vitae et Veritatis Splendor, pour que l'on ne se modèle plus sur l'esprit du monde. On a fait une session sur Veritatis Splendor, et cette encyclique a été critiquée autant, sinon plus, qu'Humanae Vitae, et elle est un des textes que Jean-Paul II a considéré comme le plus important de son pontificat, avec bien sûr le catéchisme de l'Église catholique. Deuxièmement, la sainteté de tous, dont la sainteté des membres de la hiérarchie, des consacrés, des fidèles laïcs et des époux. Paul VI a exercé sa mission de prophète en disant aux époux chrétiens, à tous les époux chrétiens de la part de Dieu, qu'ils étaient appelés à la sainteté. Et combien de fois Saint Jean-Paul II nous l'a dit, nous l'a redit, n'ayez pas peur d'être des saints. Troisièmement, les auditeurs inattendus, dont parlait avec enthousiasme Saint Paul VI en concluant l'année sainte 1975. Et qui faisait partie de ces auditeurs inattendus ? Les jeunes. Paul VI, vous l'avez dit, Monseigneur, on le dit aussi, a beaucoup souffert des critiques contre Humanae Vitae. Et après Humanae Vitae, il n'a plus jamais donné d'encyclique et il a vécu le martyr moral. Il se demandait s'il était opportun d'ouvrir l'année sainte 1975. Et en ouvrant l'année sainte 1975, vous pouvez retrouver les textes, hein, les homélies et tout, eh bien il se posait la question qui montrait son angoisse. Qui répondra à notre appel? Je peux dire en vérité que lorsque le pape Paul VI a ouvert l'année sainte, donc ça devait être à Noël 1974, ça ne m'a rien fait. Conversion n'était pas encore arrivée. 11 février 1975, c'est arrivé. Voilà, donc j'étais dans ma tiédeur, j'étais... Voilà, donc l'année sainte... Et voilà, les auditeurs inattendus, les jeunes. Donc je fais partie de ces auditeurs inattendus de l'année sainte 1975. Oui, Dieu, par la Vierge Marie et Jésus miséricordieux, m'a fait la grâce de la conversion totale. Les jeunes amis de Notre-Dame-des-Neiges, mais aussi les jeunes témoins de la vie, les jeunes témoins du bel amour, sont conquis aujourd'hui par Humanae Vitae. Mais ils ont besoin de nouveaux Monseigneur Mélina et de sûrs témoins. Voilà. Donc on a les jeunes avec nous. Pas tous, bien sûr, mais on en a avec nous. Et en France, nous en avons. Il faut savoir les guider. Vous savez, nous avons lancé avec les Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris, les jeunes témoins de la vie. Je me rappelle encore en 2004... Monseigneur Trujillo Lopez, cardinal Trujillo Lopez, était venu à Paris pour le Rassemblement National, Anthony. Et là, il y avait 450 jeunes témoins de la vie. 450 jeunes témoins de la vie. Mais moi, je ne pouvais pas m'en occuper. Je pouvais bien m'en occuper un petit peu, leur envoyer quelque chose, mais c'est tout. Et j'ai dit au cardinal, je l'ai dit devant tout le monde, hein, il a entendu. J'ai dit, éminence, aucun évêque ne veut les prendre en charge. Vous, mon éminence, voulez-vous les prendre en charge? Pas de réponse. Pas de réponse. Alors évidemment, qu'est-ce que vous dites? Ils avaient du désir, ces jeunes. Et bon, certains, peut-être, sont parmi ici. Voilà. Quatrièmement, être témoin de ce qu'est le véritable amour. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, disait sainte Thérèse. Et Mère Marie-Augusta a eu cette intuition puisée dans sa prière, et dans son union au cœur de Jésus. Donum Dei, don de Dieu, c'est ton nom, mon Seigneur, c'est aussi ton histoire. Se donner, c'est le besoin de ton amour. La contraception n'engendre pas l'amour don, mais un faux amour, qui instrumentalise le conjoint. La civilisation de la vie ne peut qu'être le fruit de la civilisation de l'amour. Civilisation qui ne peut venir que du triomphe du cœur immaculé de Marie, de la nouvelle Pentecôte et du règne du cœur de Jésus. Cinquièmement, dans les actes de la session aux mains évitées de 2068, on a fait cette session ici, vous trouverez plusieurs interventions de Pierre-Olivier Ardouin, qui avait fait des interventions remarquables. Elles sont sur notre site. Et je me servirai de la dernière intervention pour préciser des actions concrètes en vue de la construction de la civilisation de la vie. La première et fondamentale action est de rappeler avec courage que l'acte sacré par lequel est transmise la vie humaine est l'acte conjugal, qui rend les époux aptes à la génération d'une nouvelle vie humaine. Vous l'avez dit et redit, Monseigneur, hier. Saint Paul VI parle de la très haute vocation de l'homme à la paternité. Dieu n'a pas de collaborateur dans la création des anges, mais il en a voulu pour créer les hommes. Les époux procréateurs, qui librement exercent une paternité et maternité responsables, sont ses collaborateurs. Dans sa lettre aux familles, peut-être que, Monseigneur, vous avez aidé Jean-Paul II, parce que ce que vous nous avez dit hier, j'ai retrouvé beaucoup de choses de Jean-Paul II. Dans la paternité et la maternité humaine, Dieu lui-même est présent selon un mode différent de ce qui advient dans toute autre génération sur la terre. En effet, c'est de Dieu seul que peut provenir cette image, cette ressemblance qui est propre à l'être humain, comme cela s'est produit dans la création. La génération est la continuation de la création. La jeunesse de l'homme ne répond pas seulement aux lois de la biologie, elle répond directement à la volonté créatrice de Dieu, c'est-à-dire à la volonté qui concerne la généalogie des fils et des filles des familles humaines. Alors, j'ai dû me tromper sur le mot généalogie, là, c'est la génération. Oui. Dieu a voulu l'homme dès le commencement, et Dieu le veut dans toute conception et dans toute naissance humaine. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait du copier-coller, donc ce n'est pas moi qui... La généalogie de la personne, je pense que... Attendez voir si dans le texte de Jean-Paul II, il a utilisé ce mot. Je sais pas.
La génération de la vie,
oui,
est le lieu de la généalogie de la personne.
D'accord. Donc c'est bien le mot généalogie. Hein. Donc la généalogie de la personne est donc liée avant tout à l'éternité de Dieu. Ensuite seulement à la paternité et à la maternité humaine qui se réalisent dans le temps. Et ça c'est très important de bien l'assimiler, mais c'est vrai que vous avez besoin de temps aussi pour l'assimiler, parce que nous on a fait beaucoup d'approfondissement sur la question. Un jour, j'ai un garçon qui est venu me voir. C'était pas la confession, donc je suis pas lié au secret. Il avait 27 ou 28 ans, et il venait d'apprendre qu'il avait été conçu à la suite d'un viol. Donc il était effondré. Pourquoi lui a-t-on caché? Et il attend 27 ans pour savoir la vérité. Donc pour lui, tout s'écroule. On a quelques secondes pour répondre. Donc j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour lui dire, donner une réponse. Je lui ai dit, tu vois, ta conception n'a pas été faite selon le plan de Dieu. Ton père, tu le connaîtras jamais. Ton père biologique, tu le connaîtras jamais, c'est évident. Mais Dieu t'a donné une âme spirituelle. Tu es une personne humaine. Tu es fait pour la vie éternelle. Tu es fait pour le bonheur éternel. Et si ton père t'a conçu dans un acte de violence effroyable, toi, en priant pour lui, en lui donnant ton pardon, tu peux le sauver et lui obtenir la vie éternelle. Je ne sais pas si ça aura changé quelque chose, mais c'est très important de bien comprendre cela. Et c'est pour ça que je vous redis, il faut bien méditer tout ce que Monseigneur nous a dit hier après-midi, parce que tout est là-dedans. Sixième point, la dignité de toute vie humaine qui provient de l'amour de Dieu. Bon, on l'a suffisamment dit depuis le début de la session, je ne veux pas revenir là-dessus, mais comme Monseigneur a sa partie qui nous a pas lue hier, qui concernait Donum Vitae, il serait important aussi de le méditer. En tant que croyants, nous ne pourrons jamais permettre que la domination de la technique puisse invalider la qualité de l'amour et le caractère sacré de la vie. C'est Benoît XVI qui le disait le 12 mai 2008. La vie ne peut venir que l'acte d'amour, comme vous l'avez bien dit hier, Monseigneur. Septième point, le don de la vie humaine relève uniquement de la responsabilité des époux, de leur paternité et maternité responsable, et non des dirigeants des nations. Paul VI, lorsqu'il est allé à l'ONU, le 4 octobre 1965, avait dit aux dirigeants des nations, votre tâche est de faire en sorte que le pain soit suffisamment abondant à la table de l'humanité et non pas de favoriser un contrôle artificiel des naissances qui serait irrationnel en vue de diminuer le nombre des convives au banquet de la vie. Sixième point, le bienfait de la vertu de chasteté. Et Monseigneur, vous en avez parlé hier. Cette énergie du bel amour. Alors, je parlais toujours de l'énergie du bel amour, mais j'ai revu un peu dans le texte du pape Jean-Paul II, il parle de l'énergie de l'amour. Mais enfin, il a bien dû dire une fois ou l'autre le bel amour. Voilà, le bel amour, pour s'aimer amoureusement jusqu'à la fin de votre vie, vous les époux. Mère Marie-Augusta, je le dis, le combat olympique de la pureté. Je vous demande pardon de vous citer ce que j'ai lu la semaine dernière dans les news de Google. Marlène Schiappa, ministre, qui a été ministre du gouvernement français, vient de sortir son dernier livre, Scandale. Rassurez-vous, je ne l'ai pas lu. Mais bon, j'ai peut-être manqué un peu de discernement. Mais j'ai lu quand même la petite présentation qui était faite. Hein. C'est écœurant. Genre littéraire qui mélange amour et scène érotique. L'héroïne semble inspirée de l'histoire de la femme politique qui vit une parfaite idylle avec son compagnon Mathias. Je ne vous invite pas à lire ce livre, mais je le cite pour vous dire que l'intuition de Mère Marie-Augusta en 1948 était vraiment prophétique. Nous vivons vraiment le combat olympique de la pureté. Et je pense aux enfants de Marlène Schiappa. Enfin. Et puis l'éducation au bel amour, eh bien tout ça, je ne le lirai pas parce qu'on va avoir l'heure de la messe. Je ne veux pas prolonger. Ce sera écrit, vous aurez... Voilà. Et j'ai cité un long passage de Saint Jean-Paul II dans sa lettre aux familles. Cette lettre aux familles, je ne connais pas beaucoup d'évêques français qui l'ont commentée et qui ont demandé aux Français de la lire. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et donc, prenez-la pendant ce temps des vacances. Lisez-la, approfondissez-la. Et vous verrez, tout ce qu'a dit Jean-Paul II, c'est parfaitement actuel aujourd'hui. Et là, cette civilisation de l'amour qui se trouve en opposition avec la contre-civilisation destructrice. Voilà. Et donc, cette civilisation de l'amour, elle s'imposera. Il faut avoir confiance. Elle s'imposera. Et elle appelle à la joie comme le dit Jean-Paul II. Parce que aussi dans ce, il parle, vous voyez, de la peur de l'enfant. On est dans un monde qui a peur de l'enfant. Et en même temps qu'on a peur de l'enfant, on veut fabriquer l'enfant. Vous voyez, j'ai lu le livre de Pierre Simon, et à la conclusion du livre de Pierre Simon, Pierre Simon voit très bien que c'est tout le concept de famille selon le plan de Dieu qu'il met en place et qui va le contredire, pour dire plus que jamais, la vie, c'est la production humaine. Voilà la maçonnerie. Eh bien nous, vous l'avez très bien dit, Monseigneur, la vie, elle vient de Dieu. Voilà, la civilisation de l'amour, elle va s'imposer. Mais l'amour est exigeant. C'est ce que, la conclusion de ce texte que j'avais marqué. L'amour est exigeant. L'amour auquel l'apôtre Paul a consacré une hymne dans la première lettre aux Corinthiens, l'amour qui est patient, qui rend service et qui supporte tout, est assurément un amour exigeant. C'est là justement que réside sa beauté, dans le fait d'être exigeant, car ainsi il édifie le vrai bien de l'homme et le fait rayonner sur les autres. Saint Paul VI avait demandé aux évêques « Travailler à la sainteté du mariage, c'est travailler à la civilisation de l'amour. Pour construire la civilisation de la vie, il est absolument nécessaire d'édifier la vraie civilisation de l'amour, fondée sur l'amour de Dieu, l'amour don désintéressé de soi. Rendons grâce à Dieu du don du magistère de l'Église, qui par Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II n'a pas eu peur d'être signe de contradiction en annonçant depuis 1968 fidèlement, malgré obstacles et oppositions de toutes sortes, le plan de Dieu sur l'amour conjugal et le don de la vie humaine. Que deviendrait l'humanité si l'Église n'avait pas exercé cet important ministère prophétique? Alors, en avant pour la mission au service du bel amour et de la famille, et nous voulons collaborer avec vous, Monseigneur Mélina.